Chapitre 13. Thomas Gainsborough laisse les sentiments s'exprimer. D'habitude, Camille et Mona n'attendaient guère chez le docteur Van Horst. Mais cette fois-ci, le secrétariat de l'hôpital avait prévenu qu'il y avait foule à cause d'une grève du personnel soignant. Camille, qui était pourtant solidaire de tous les combats sociaux, se surprit à râler. Elle tenta d'obtenir un passe-droit qu'on lui refusa tout net. Elle brancha des écouteurs sur son téléphone portable et, sans se préoccuper de Mona, s'absorba dans le petit écran. Elle y faisait défiler compulsivement de courtes séquences de débats télévisés où des participants s'agressaient verbalement à propos de tous les sujets possibles. Ces séquences, nommées « clash », passaient pour le comble du débat démocratique. Mona, elle, demeurait tranquillement assise et, bras croisés, ressassait les mots de la dernière consultation. C'est du 50-50. Elle aurait voulu demander à sa mère ce que cela signifiait, mais n'osa pas l'interrompre. Leur duo offrait un drôle de spectacle. La plus âgée était rivée au flux du virtuel et passait d'une vidéo à l'autre comme si elle enchaînait des cigarettes. Sa fébrilité grandissante n'échappait pas à Mona, qui la regardait avec de beaux yeux tristes. Alors, plutôt que de lui tirer la manche, sans crier gare, elle glissa son doigt sur l'appareil et pressa l'écran tactile pour stopper la vidéo. Camille redressa la tête, surprise et crispée, et se tourna vers Mona quand, à cet instant, un infirmier entra dans la salle, l'air perdu. D'une voix blanche, il expliqua « Désolé, mais il y a trop peu de médecins et de personnel aujourd'hui pour traiter autre chose que les cas urgents. Nous sommes donc contraints de vous demander de rentrer chez vous et de revenir ultérieurement. » Une fois dans le métro, Mona constata que sa mère ne touchait plus à son téléphone. Elle lui demanda « Mais, moi, maman, c'était urgent, dis ?» Et Camille lui expliqua que non, cela ne l'était pas vraiment, qu'il ne s'agissait que d'une consultation de contrôle. Mona, rassurée, se gratta les cheveux. « On dira que c'est une petite pause dans ma guérison, » chuchota-t-elle. Tandis qu'il gagnait le Louvre avec sa petite fille, Henri songeait à ces artistes dont le handicap avait sublimé les qualités. À Mona, il avait déjà parlé de la main tremblante de Poussin. Un jour, peut-être, il lui raconterait Goya et sa surdité, ou alors Toulouse-Lautrec, ses infirmités et son alcoolisme, ou bien encore Hans Hartung, peintre abstrait qui perdit une jambe au combat et qui réinventa en conséquence sa technique et sa gestualité. Il songeait surtout à ces artistes dont la perception oculaire s'était brouillée au fil du temps, parfois jusqu'à la cécité complète. Il se rappelait le cas de Rodolphe Töpfer, fils de peintre et promis lui-même à une belle carrière, auquel fut diagnostiqué très jeune un trouble de la vue l'empêchant de discerner les couleurs. Töpfer abandonna les pinceaux, mais en compensation, se mit à crayonner abondamment et à raconter, case après case, des histoires de manière inédite. Il devint ainsi, dans la première partie du XIXe siècle, l'inventeur de la bande dessinée. Henri songea bien sûr à Claude Monet, devenu quasiment aveugle dans sa vieillesse, et qui donnait à ses paysages de Giverny des aspects complètement pulvérisés et tumultueux, un sommet de l'impressionnisme plutôt que sa dégradation ultime. Et par analogie, il voulut conduire Mona devant une pièce de Rosalba Carriera, l'artiste vénitienne contemporaine de Watteau et de Canaletto, qui maniait les techniques du pastel comme personne en son temps et qui, par un mauvais tour du destin, termina dans le noir complet après une opération hasardeuse et douloureuse de la cataracte en 1749. Triste ironie, certes, mais du moins, cette femme s'était imprégnée de toutes les merveilles du monde avant cette extinction sensorielle. Henri, dévoré par l'urgence, pressa le pas. Il fallait à tout prix que Mona connaisse l'histoire et l'œuvre de Rosalba, pensait-il. Mais au moment de passer la sécurité du musée, la petite déclara soudain à son grand-père « Dadé, aujourd'hui, nous irons voir des amoureux. » L'injonction, aussi imprévisible qu'irrésistible, avait fusé comme une flèche. Elle fit fondre Henri qui la conduisit vers des horizons anglais. Le tableau n'était pas spécialement grand. Pas même 75 cm à la verticale et encore un peu moins dans sa largeur. Dominant une scène en extérieur, un jeune couple semblait converser. Le garçon pivotait vers le visage de sa compagne et appuyait son adresse par une main ouverte allant dans sa direction. Assis côte à côte, ils formaient tous deux une entité qui occupait une large surface de la toile, la moitié exacte de sa hauteur totale. Cela n'empêchait pas l'œuvre de dégager un puissant sentiment d'espace, grâce à l'enchaînement de ces cinq plans. Il y avait d'abord celui des protagonistes. Le banc sur lequel ils se trouvaient assis jouxtait un buisson mordant sur le bord gauche du tableau. En suivant la masse végétale qui s'enfonçait dans la profondeur, on tombait au deuxième plan sur des feuillages verts et orangés plus denses. Ils provenaient des branches jaillies de plusieurs arbres, lesquels étaient suffisamment élancés pour se perdre bien au-delà des limites supérieures du cadre. Le troisième plan était visible sur le côté droit de la composition et consistait en une étendue d'eau dont la rive était bordée d'autres troncs, et surtout au quatrième plan, d'un morceau de rotonde soutenu par des colonnes surmontées de chapiteaux corinthiens. Enfin, dans la trouée au loin, toujours sur la droite de la composition, de nombreux nuages obstruaient le ciel et filtraient une lumière grise. Celle-ci offrait à la nature une teinte argentée avec laquelle contrastaient les costumes du couple. Se découpant sur la rotonde et le cours d'eau, le garçon exhibait ainsi un flamboyant habit rouge déboutonné sur un gilet jaune. Il avait un visage rond et glabre, surmonté d'un tricorne sombre, et il tenait du bout des doigts un livre contre ses cuisses croisées. D'un trait, le peintre avait par ailleurs suggéré son épée accrochée à la taille. La jeune femme, elle, était vêtue d'une très ample robe à panier rose, sous laquelle pointait, là où elle était trop retroussée, un peu de tissu bleu vert. Elle ouvrait un éventail à l'encoignure de ses jambes, et son visage frais, cerné de cheveux bouclés sous un chapeau souple, fixait le spectateur plutôt que le compagnon qui la sollicitait. « Ils sont tellement beaux !» attaqua Mona sans même avoir pris le temps d'examiner le tableau en silence. « Ah non, s'il te plaît, on se tient à la règle. On se tait et on regarde d'abord. Pas un mot. » 15 minutes passèrent, durant lesquelles Mona bouillonnait, trépignait, agrippait la main d'Henri et y enfonçait ses ongles. Elle n'avait pas envie de poser des questions. Elle avait envie de parler. Son grand-père le sentit et la laissa entamer la leçon. « Tu vois, Dadé, regarde. Il l'aime. C'est un jeune garçon et avec son livre à la main, il lui dit des jolis mots, des mots choisis, peut-être un poème. Dans son livre, il y a peut-être le poème qui lui permet de dire des choses qu'il ressent, et que ses mots à lui l'empêchent de dire comme il voudrait. Tu vois, il l'aime. Il a tendu la main vers son visage, et entre ses doigts, il aurait envie de glisser le menton de son amoureuse, ou de dénouer le nœud qui accroche son chapeau, ou peut-être qu'il fait ce geste pour donner plus de force à ses mots. Ses mots à lui, ou ceux du poème. Tu vois, il l'aime, et elle aussi, mais elle le cache, parce qu'elle nous regarde, nous.
Tu as raison, elle n'en montre rien, et elle nous invite par cette expression complice à nous mêler à la scène. On appelle cela un admoniteur. Et comme c'est une femme, il nous faudrait parler ici d'admonitrice. Ah, si nous étions au cinéma, on dirait plus simplement qu'il s'agit d'un regard caméra, et ce serait moins laid comme vocabulaire. Mais, Mona, si cette femme est plus intéressée par nous que par lui, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle l'aime alors ?
Mais Dadé, elle l'aime enfin ! Regarde sa robe, elle est rose et ressemble à un grand cœur tout enflé d'amour. Elle sourit comme la Joconde de Léonard. Et puis, cet éventail qui lui sert à s'aérer pour éviter de trop rougir. Oh, regarde ses joues. Elle cache mal son jeu. Sans même savoir qui ils sont tous les deux, je peux te dire qu'ils s'aiment.
C'est bien possible, glissa Henri, émerveillé de l'ardeur de sa petite fille. Quant à leur identité, l'hypothèse la plus probable est celle-ci. Le jeune garçon qui peint ce tableau est aussi celui qui se trouve dedans. L'auteur de cette conversation dans un parc est un jeune Anglais d'à peine 20 ans. Il s'appelle Thomas Gainsborough. Et à côté de lui, il s'agirait donc de sa toute nouvelle épouse, Margaret Burr, la fille illégitime d'un duc. Gainsborough a pu apprendre son métier à Londres, chez un graveur d'origine française nommé Gravelot, mais est surtout un fascinant autodidacte. Issu d'une famille sans histoire, du Suffolk, à l'est de la Grande-Bretagne, c'est un peintre dont le génie a quelque chose de totalement spontané, comme il n'en éclot pas plus d'un ou deux par génération. Mieux encore, ses œuvres se caractérisent précisément par leur exaltation de la spontanéité. Ainsi, ce qui aurait dû n'être qu'une allégorie codifiée pleine de symboles convenus, ou un portrait de couple figé, ou pourquoi pas un badinage caricaturalement fripon, devient avec cet artiste un instant de vie amoureuse, vif et émouvant. Ce type de scène est typique de l'art anglais du XVIIIe siècle et on l'appelle « conversation piece », un morceau de conversation. Rappelle-toi, quand tu m'avais parlé de la belle jardinière de Raphaël, tu m'avais dit qu'il voulait donner une impression de facilité, mais qu'il travaillait très dur pour y arriver. Est-ce que c'est la même chose ici ? Eh bien, pas vraiment. Regarde à présent les arbres au deuxième plan, avec leur gamme rousse de l'automne et leur vert chatoyant. Ils sont d'un dynamisme redoutable, parce que la spontanéité de Gainsborough est aussi celle de son toucher. Je dis bien de son toucher, car Gainsborough écartait parfois le pinceau et y allait avec un bout d'éponge, ou lissait directement avec les doigts. Les témoins de l'époque le disent. L'exécution de Gainsborough était rapide, très rapide, et sensuelle aussi. Il aimait en outre renifler l'odeur de ses couleurs. Sans Mona, l'ocre de ses feuilles a tout à la fois le parfum des bois humides qu'il représente et celui des pigments terre de sienne dont il est fait. Mona ferma les yeux, serra les poings et inspira à plein poumon. Ses narines n'attrapèrent ni bois humide ni terre de sienne, mais simplement un effluve d'eau de Cologne de son grand-père, exhalaison qui elle-même stimula en son fort intérieur la réminiscence de sa grand-mère. Cela lui permit de s'approprier le tableau plus intimement encore. « C'est tellement romantique, Dadé, surtout avec ce décor, cette eau là au fond, et ce petit temple. » Ce n'est pas vraiment un temple, Mona, mais ce qu'on appelle une fabrique ou une folie au XVIIIe siècle. C'est-à-dire une petite construction qui vient donner une touche fantaisiste et théâtrale à un jardin lui-même foisonnant, un jardin qui reprend et mime les irrégularités, les sinuosités de la nature, plutôt qu'il n'essaie de les dompter, comme le voulait le nôtre sous Louis XIV. Cette mode du jardin à l'anglaise, aux limites du paysage, inspire considérablement Gainsborough. Il y perçoit là aussi la spontanéité de la vie et le reflet des émotions. Ce que nous dit ce peintre, alors qu'il est encore si jeune et tellement précoce, c'est combien l'expression des sentiments par tous les moyens est essentielle. Converser n'est pas une futilité, c'est un principe vital. Regarde, le garçon porte une épée. C'est le symbole du monde aristocratique anglais. Un monde qui était très différent du nôtre aujourd'hui, très affecté et raidi par les traditions et de nombreux codes. Un monde tout en retenue. Gainsborough, sans être injurieux ou frondeur envers la société, nous invite cependant à faire confiance aux sentiments, à savoir les exprimer. Je ne sais pas si c'est romantique, comme on l'entend aujourd'hui, Mona, mais c'est très certainement aux origines du courant qui germera 50 ans plus tard partout en Europe et qu'on nommera en effet le romantisme. Dis, Dadé, est-ce qu'ils ont eu des enfants, Thomas et Margaret ?
Deux filles, que Thomas adorait et qu'il a souvent peintes. D'ailleurs, Gainsborough signa de nombreux portraits de tout jeunes gens. Ce fut une spécialité qui lui assura le plus de succès dès les années 1760. Tu sais, à l'époque, on commençait enfin à faire attention aux plus petits, à respecter davantage les enfants, à s'intéresser à leur sensibilité propre, au lieu de vouloir à tout prix les dresser comme des adultes en miniature. C'était une véritable révolution.
lancée en particulier par un philosophe du nom de Jean-Jacques Rousseau. « Mais moi, Daddy, tu le sais bien, ce que j'aime avec toi, c'est que tu me parles toujours exactement comme si j'étais une grande. Eh bien, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. » Ainsi te disais-je. La renommée de Gainsborough prospéra dans les années 1760. Elle culmina dans les années 1770-1780, lorsqu'il travailla pour la famille royale, à l'heure où l'Angleterre de George III connaissait les débuts de la révolution industrielle. Il entretenait toutefois des relations tendues avec la Royal Academy, la grande institution officielle, car il y estimait ses œuvres mal accrochées, trop en hauteur et éloignées des spectateurs. C'est pour cela que Gainsborough préférait présenter ses tableaux chez lui. Les conditions d'exposition s'en trouvaient beaucoup plus libres et personnelles, car toute sa peinture voudrait attirer l'attention jusque dans les moindres détails de texture, d'empattement, de granulation. Un peu comme Margaret qui nous cherche du regard. C'est une peinture qui appelle les mains, les doigts, qui veut être touchée autant que vue. Mona se rappela le bonheur d'avoir examiné la sculpture de Michel-Ange sous un angle différent après être montée sur les épaules de son grand-père. Et ce choc d'une perception différente, elle désira le ressentir en s'approchant cette fois très près de l'œuvre. Aussi demanda-t-elle à Henri de distraire le gardien de la salle en lui faisant la conversation. Le vieil homme comprit le vilain subterfuge, mais s'y résolut, conscient que sa petite fille ne verrait peut-être jamais plus Thomas Gainsborough de si près, et que cela valait la peine de lui ménager cet extraordinaire souvenir. Alors Mona, à l'abri de toute surveillance, avança son nez vers les plis roses de la robe et l'escarpin bleu rehaussé d'éclats blancs. C'était si prodigieux, si renversant de beauté, qu'elle leva la main à hauteur de son visage et doucement, très doucement, en s'imaginant dans l'atelier de l'artiste, en plein cœur de cette époque si lointaine, elle la tendit vers le morceau de tissu en pointe, semblable au pétale d'une églantine qui frôlait le sentier terreux, et le caressa. Une alarme retentit dans les galeries du Louvre.